Marie Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Zinzinex. Aujourd'hui, c'est le 27e numéro de notre émission Mare Nostrum, avec Fabrice à la technique et moi-même, donc Raymond, qui assure la préparation et la présentation de cette émission. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder porte sur les transformations sociales qui sont liées à la mondialisation au Maroc. Et pour évoquer ce thème, nous recevons donc un sociologue, enseignant-chercheur, Brahim Labarry. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes enseignant-chercheur en sociologie, puisque c'est un entretien de sociologie, qu'on va dire, à l'université Ibn Zohr à Agadir, en Maroc. Donc merci d'avoir fait tout ce voyage pour venir faire cet entretien.
Merci à vous.
Vos travaux ont porté sur les problématiques du genre, sur les conditions de travail, sur la mobilité socio-spatiale des salariés au Maroc, avec des collaborations avec le laboratoire CNRS Genre, Travail et Mobilité de deux universités parisiennes, Paris 8 et Paris 10. Et vous travaillez également avec Aix-Marseille Université, puisque vous êtes membre d'un programme qui s'appelle MIGTRAV, qui est organisé par le laboratoire d'économie et de sociologie du travail, le LEST, avec qui on a déjà travaillé, d'Aix-Marseille Université. MIGTRAV qui s'intéresse bien sûr aux migrations et au travail. Voilà, hein, c'est plus par analogie donc avec les travaux que vous faites. Donc voilà, on a à peu près présenté les choses, donc on va passer maintenant à l'examen de ce thème. Donc sur cette mondialisation, ces transformations, ce que vous avez étudié tient d'abord, pour introduire un petit peu les choses, à une ouverture de l'économie marocaine à la mondialisation il y a quand même quelques années. Peut-être le pays d'ailleurs du Maghreb qui est le plus ouvert à la mondialisation. Donc, en quelques mots simplement pour nos auditeurs, quelles sont les raisons, les conditions de cette ouverture de l'économie marocaine ?
Oui, alors bonjour, merci de votre invitation. Et puis c'est un plaisir et un honneur d'être ici à Aix. On en a parlé tout à l'heure, une ville universitaire. Moi j'ai beaucoup apprécié, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'annuaire de l'Afrique du Nord qui a été édité à Aix depuis 1962, qui a changé maintenant de nom pour l'année du Maghreb. Et, mais également, beaucoup de collègues universitaires ont été formés à Aix. Et je dois dire que leur formation a été de très haut niveau. On a évoqué tout à l'heure le nom de Bruno Etienne, notamment en sciences politiques, mais beaucoup aussi en sociologie. Le LEST, par exemple, le laboratoire d'économie et de sociologie du travail, est très connu parce qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui avaient développé notamment l'effet sociétal. C'était Marc Maurice et son équipe à l'époque, en 1982. Et je suis donc très ravi d'être dans cette ville qui est universitaire. Alors évidemment, votre question, l'économie marocaine ouverte à la mondialisation, je dois d'abord dire qu'on doit spécifier de quelle mondialisation il s'agit. À mon avis, c'est plutôt la mondialisation libérale, donc ou le capitalisme international. Le Maroc, dit l'indépendance, a ouvert sa porte d'une certaine manière à travers notamment la doctrine de l'open door, le régime de la porte ouverte, qui fait qu'il s'est inscrit de prime abord dans l'économie de marché, contrairement par exemple à son voisin algérien qui a lui opté pour la planification. Et vous l'avez évoqué également, c'est l'un des pays les plus ouverts à la mondialisation du côté du Maghreb central, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie et Libye également. Alors, l'économie marocaine ouverte, bien évidemment, et on atteste effectivement la présence d'un capital étranger de plus en plus important, Et ça ne date pas d'hier. Effectivement, on a eu ça depuis les années 80, grosso modo, parce qu'après l'indépendance, il y avait toute une série de politiques liées à la nationalisation de l'économie marocaine, à la marocanisation même, à la loi de la marocanisation. Mmh. Et aujourd'hui, il y a une ouverture quasi certaine à l'économie mondiale. D'abord, par les délocalisations d'entreprises, qui a été mon sujet de thèse de doctorat à l'Université de Paris 10, et également aux multinationales, McDonald's, quand vous arrivez dans une ville marocaine, vous ne pouvez ne pas constater qu'il y a un McDo, et un McDo prisé par les gens, prisé par une certaine classe sociale, d'une certaine manière, et tout cela atteste, si besoin est, de l'ouverture du Maroc à cette consommation de masse générée, entre autres, par le processus de mondialisation. Donc oui, il y a une ouverture marocaine du Maroc, au processus de la mondialisation libérale, mais on doit aussi, à contrario, parler de l'ouverture de la société marocaine à la mondialisation, notamment à ce que moi j'appelle la mondialisation des configurations d'en bas.
Oui,
c'est-à-dire cette mondialisation qui n'est pas hégémonique, qui n'est pas simplement liée au travail, au capital, mais qui est liée aux gens ordinaires. Par la migration, vous savez que le Maroc a une vieille vocation migratoire. Mon père était venu dans les années 50 en France.
Ah oui.
Et il a travaillé dans l'industrie automobile. Et quand il est arrivé à la maison, et comme c'est semblable d'ailleurs, le rêve d'or, c'était le parfum. C'était déjà le symbole de la mondialisation parce qu'il est porté par des gens ordinaires. C'est ce qu'Alain Tarius s'appelait les fourmis de la mondialisation. Et cette société marocaine, son complexe, est ouverte effectivement, tout en restant attaché, bien évidemment, à la tradition, à ses valeurs ancestrales, à sa religion. Mais il reste qu'il accepte quand même un certain cosmopolitisme. Il s'est fait de regarder Marrakech aujourd'hui, hein,
ouais,
d'une certaine manière. Non seulement par la migration, mais également par le tourisme. Ne serait-ce qu'hier, je ne sais pas si vous avez regardé France 3, pour ne pas la citer, qui a consacré hier un reportage sur les retraités français au Maroc.
Qui résident.
Absolument, à El Jadida. Et ça, à mon avis, ça participe de cette mondialisation des configurations d'en bas. C'est-à-dire qu'il est porté par des gens ordinaires qui restent quand même dans un certain nombre de pratiques sociales, de formes sociales, très minimes, mais pour quiconque observe un tant soit peu la société marocaine pourrait les relever sans difficulté.
Mmh. Alors, ce sont des relations sociales très croisées, quoi, qui finalement se sont mises en place avec cette mondialisation.
Absolument.
Un peu dans tous les sens, quoi, et qui a influencé donc des transformations dans la société.
Tout à fait. Il y a une forme de métissage, effectivement, entamé ou abouti, hein, si selon, de toute façon, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui au Maroc sur cette cosmopolitisation de la société marocaine. Nous avions évoqué tout à l'heure les travaux de mon ami Michel Peraldi sur Marrakech.
Ouais.
Marrakech, c'est le laboratoire de cette ouverture de la société marocaine à sa mondialisation. Il reste qu'effectivement, quand on veut regarder les choses de façon très rigoureuse et objective, qu'il y a une rouée d'occidentaux, non seulement d'occidentaux d'ailleurs, parce qu'on trouve aussi une population asiatique qui achète les riads, les maisons d'hôtes à Marrakech, qui s'installent à Marrakech, qui investissent dans la médina de Marrakech. Et à côté de cela, il y a un certain nombre, ça fait d'aller à Jemaa el Fna, toute une tradition marocaine qui se manifeste. Jemaa el Fna, d'ailleurs, qui a été classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc il y a des métissages, comme vous le dites, il y a un croisement, tous azimuts d'ailleurs, effectivement, entre cette population qui nous vient d'Europe, du côté nord de la Méditerranée. Il y a aussi des Espagnols, une présence espagnole, une présence chinoise aussi, Casablanca, Adrba Omar, Adrbalf. Il y a une présence, effectivement, et il y a même la babouche marocaine qui a été fortement concurrencée ces derniers temps
par la babouche chinoise,
moins chère, effectivement, mais pas faite par nos artisans. nos emplettes font nos emplois, on devrait quand même acheter. Et d'une certaine manière, oui, il y a cette double ouverture, une ouverture de l'économie marocaine, c'est un fait aujourd'hui. Je pense que depuis les programmes d'ajustement structurel et les différentes recommandations de la Banque mondiale, ce diktat. Mais tout de même, il y a cette volonté d'inscrire l'économie marocaine dans une économie de marché, mais à contrario, il y a tout le pendant de tout cela, effectivement, c'est les inégalités sociales,
voilà, donc,
c'est la paupérisation, voilà. C'est la précarisation qu'un sociologue ne peut pas manquer de relever, de soulever en même temps.
Voilà, c'est ce qui fait un petit peu l'objet de vos recherches. Donc votre champ de recherche, c'est surtout ça, c'est les conséquences sur le travail, sur le monde du travail, qu'on va examiner dans un moment, avec des méthodes d'investigation qui sont les méthodes habituelles des sociologues, c'est-à-dire les enquêtes sur le terrain.
Oui.
On va écouter un petit peu de musique marocaine, bien évidemment, avec Fekta, donc c'est un groupe de chanteurs chaabi.
Très bien.
Voilà, donc on est en compagnie de Brahim Labary, sociologue, qui travaille donc sur la transformation de la société marocaine face à la mondialisation. Et donc on va évoquer maintenant le monde du travail à travers des enquêtes. Vous avez fait plusieurs enquêtes. J'ai retenu donc trois champs d'études. Un premier champ qui regroupe le secteur de l'habillement et les fermes agricoles, qui ne sont pas si éloignés que ça dans le domaine des conséquences sociales. Et puis, une troisième étude qui est un petit peu particulière, qu'on évoquera ensuite sur les particularités des centres d'appel. Alors, sur les deux premiers secteurs, qui sont riches quand même en constatations sociologiques, je suppose.
Oui, bien sûr. De toute façon, quand on parle de changements sociaux ou, à plus forte raison, de transformation sociale ou d'imitation sociale, il y a deux facteurs, d'une certaine manière, qui impulsent ce changement et qui même l'approfondissent dans un certain sens. Il y a d'abord les facteurs endogènes, c'est-à-dire liés à l'évolution même de la société marocaine, sous l'effet de l'accroissement de sa population, de l'urbanisation accélérée, de la scolarisation généralisée. Il y a tout un tas de facteurs. Et il y a des facteurs exogènes sur lesquels moi je mise beaucoup, je zoome beaucoup. Je m'intéresse énormément à ces facteurs exogènes liés effectivement au processus de la mondialisation et à cette ouverture qu'on a évoquée tout à l'heure. Alors effectivement, pour comprendre ces transformations, on a plusieurs portes. J'aime bien cette métaphore de porte. C'est pas la porte au sens de Georges Zemel, le pont et la porte. Mais là, c'est uniquement pour comprendre quelque chose, par quelle porte il faut faire son entrée. Moi, j'ai choisi de faire mon entrée par le marché de travail. Je considère aujourd'hui que le marché de travail nous offre suffisamment de perspectives pour comprendre les transformations de la société marocaine et aussi sous Maroc des profondeurs, ou sous Maroc, la société du Maroc d'en bas, pour reprendre une formule de Jean-Pierre Raffarin sur la France. Je considère effectivement que le travail peut nous l'offrir. Pourquoi ? Parce que, naguère, nous avions considéré que, peut-être pour la comprendre, il va falloir regarder les transformations de la famille. Et Dieu sait que la famille s'est beaucoup mutée, et en l'espace de 50 ans, on n'a plus les mêmes formes, les mêmes modèles matrimoniaux. Ça a beaucoup changé. Mais il me semblait, c'est mon hypothèse effectivement, qu'on est passé de la centralité de la famille à la centralité du travail. Je pense qu'aujourd'hui, le travail pourrait nous amener à comprendre mieux et de façon encore plus pertinente ces transformations. Et pour le voir, un seul exemple. Fin des années 1950, Robert Montagne, qui doit vous dire quelque chose, qui était le conseiller de l'IOT au Maroc à l'époque, avait fait une étude, qu'ils appellent d'ailleurs une enquête collective, sur la naissance du prolétariat marocain.
Ah déjà ?
Oui, c'était vers la fin de 1950, au même moment peut-être que Pierre Bourdieu faisait un livre fameux sur l'Algérie, « Travailler, travailleurs en Algérie ». Alors tous les deux considérer le marché de travail comme majoritairement, on ne va pas dire exclusivement, majoritairement masculin. Et en l'espace d'un demi-siècle, il y a la transformation. On a aujourd'hui une féminisation du marché du travail. Déjà, un premier constat qui ne peut pas nous laisser indifférents. Nos autres sociologues, comme d'ailleurs un observateur profane. Pourquoi donc cette féminisation? Et qu'est-ce que ça implique dans la société?
Oui, surtout une société...
dite patriarcale, voilà, c'est ça. Quoi. Parce que ça change beaucoup de choses. Depuis le couple jusqu'à la structure sociale traditionnelle, en passant effectivement par les horizons, les projets migratoires, parce qu'il y a de la migration aussi dedans, c'est-à-dire pour une femme qui travaille, c'est généralement d'origine rurale, qui quitte sa ruralité originelle pour aller dans des villes-mondes, encore un vocabulaire de la mondialisation, cher à Saskia Sassen, pour aller y travailler. Et des villes-mondes, effectivement, c'est Casablanca, c'est Tanger. Il y a Marrakech également, il y a un degré moindre à Agadir, parce qu'Agadir, c'est quand même l'agriculture... la pêche maritime, le tourisme, les trois secteurs dominants de la ville. Et quand on va, par exemple, dans les fermes agricoles, c'est 70% de femmes qui travaillent, le salariat d'exécution.
Et là, ça a changé pour ça. Parce qu'avant, c'était plutôt une main-d'œuvre masculine.
Oui, mais là, aujourd'hui, effectivement, alors il y a maintenant des changements dans la société qu'un certain nombre d'enquêtes ont déjà repéré. Pas de façon lourde. Mais tandis que la femme va au travail, le mari reste dans les cafés à jouer à la ronda ou au ramé ou à faire des jeux de loisirs ou à tuer son temps, on va dire. Et ça, c'est une transformation radicale. Alors que toutes les alors qu'avant on avait quand même un travail domestique, la femme est cloîtrée à la maison pour effectuer un certain nombre de tâches domestiques, et c'est l'homme qui se charge des travaux salariés, c'est lui qui va aller chercher l'argent. Il y a aussi une virilité masculine comme étant le patron à la maison, c'est celui par qui la maison tienne, et ainsi de suite. Donc il y a ce changement radical, et quand je dis 70%, c'est pour ne pas dire plus, effectivement, la cueillette. Alors, il faut voir, il faut étudier rigoureusement les conditions de travail. Mais on va revenir sur les conditions de travail après.
Ouais.
Quand vous allez même dans les centres d'appel, c'est aussi féminisé. Hein, avec un travail sur la voie, avec de plus en plus de diplômés qui y travaillent, avec, d'une certaine manière, les conditions de travail hyper difficiles, à la taylorienne en quelque sorte, avec une division de travail stricte, avec le chronométrage, avec une surveillance accrue de ceux qui sont là, effectivement, ceux qui conçoivent les choses et qui vous surveillent, qui mettent des caméras et qui vous comptent votre nom de parole et qui vous surveillent aussi ce que vous avez bien prononcé tel, parce qu'on peut appeler d'ici d'Aix et vers un centre d'appel, et c'est quelqu'un de Casablanca, d'Agadir, qui va vous répondre bien et qui sûr. Va vous renseigner. De toute évidence, donc tout ça converge à dire qu'il y a une féminisation de la main-d'œuvre qui travaille dans des conditions évidemment difficiles, non seulement des conditions de travail, mais aussi des conditions de transport. Il y a beaucoup de faits sociologiques que l'on peut rapporter. Par exemple, quand une femme travaille à Stuka, je ne sais pas si vous connaissez très bien, c'est du côté d'Agadir, des fois elle se réveille à 3 heures du matin. Pourquoi un camion qui est chargé et nommé de la cheminer ou de la transporter, de faire des transports de sa région natale à Stuka, ça dure à peu près 2 heures. Le temps qu'elle soit là-bas à 5 heures. Le fait qu'elle se prépare pour travailler à 6 heures. Donc sa journée travaille déjà. Alors bonjour les dégâts, bonjour la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, bonjour les maladies professionnelles, bonjour le stress, bonjour aussi le harcèlement au travail, parce que généralement ce sont des hommes qui jouent un peu les cabranes, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils passent le cabranes, bon, et qui font scier le burnous, comme on disait naguère. Et donc, oui, les conditions de travail difficiles, nous, les étudiants en sociologie à Agadir, effectivement, investissent ces champs de recherche. Vont des fois faire des observations directes ou même des observations participantes. Et on a produit pas mal de mémoires sur ces thèmes-là, sur ces questions-là. Il m'arrive même d'encadrer quelques travaux dans ce sens. Et c'est très, très intéressant de voir comment aussi on peut amener les étudiants à se doter d'une responsabilité sociale par-delà même l'objectivité, c'est-à-dire quand ils regardent le monde de travail, comment il est fait, il cherche quand même non seulement à le comprendre, mais aussi à le dénoncer d'une certaine manière.
À agir.
À agir, bien sûr. À agir et à dire, voilà, c'est pas normal. Et il y a une indignation à la marocaine, de ce point de vue-là. Comment ça se fait que ces femmes, effectivement, ces jeunes femmes, avec une dynamique familiale derrière, se laissent ainsi exploiter et aliéner par un patronat un patronat aussi bien local d'ailleurs que venu d'ailleurs.
Mais donc les étudiants, ils jouent donc un rôle important, quasiment de dénonciation de ce qui ne va pas.
Bien sûr, à Agadir, par exemple, on a introduit pas mal de modules avec mes camarades professeurs. On avait introduit pas mal de modules qu'on enseignait aux étudiants et qui sont tout à fait novateurs à l'échelle académique. Pas seulement nationale, je dirais même, j'aurais la prétention de dire internationale. Par exemple, on fait la sociologie des processus de la mondialisation.
D'accord.
À Agadir. Ouais. On fait la sociologie des entreprises familiales.
Ouais.
Ne serait-ce que ces deux-là, à mon avis, il n'y a pas d'équivalent de par le monde.
Oui, c'est intéressant.
On a aussi la sociologie des inégalités, on a la sociologie des genres, on a pas mal, c'est-à-dire on s'ouvre un peu sur le milieu socio-économique local pour pouvoir l'étudier en essayant de donner aux étudiants des protocoles de recherche qu'ils peuvent mobiliser dans ce cadre-là, qu'ils peuvent, avec une liberté effectivement académique certaine, parce que il faut le faire. C'est-à-dire il y a aussi des transformations, même au niveau académique, pour s'ouvrir à ce type de champ et y aller les étudier à bon escient.
Donc il y a une répercussion
Même
de la mondialisation, non seulement sur les travailleurs, mais sur ceux qui vont étudier ces travailleurs
tout
et les changements sociaux, sociétaux donc de ce travail.
Tout à fait.
Ah, ça, c'est intéressant, puis c'est novateur quand même.
Absolument.
Donc, est-ce que dans ce cadre-là, on a des résistances qui existent sur les conditions de travail difficiles. Est-ce que se manifestent des résistances dans le cadre du travail à ces difficultés ?
Bien sûr, il y a des résistances. Bien sûr, il y a des résistances. Il y a des résistances que je qualifierais par moment de conjoncturelles. C'est-à-dire que par moment, à partir, par exemple, d'un phénomène même mystique, même culturel, que l'on impose aux salariés, les salariés brusquement retrouvent des accents de revendication, de contestation. Alors, je ne vais pas vous raconter des anecdotes, mais il y a des moments où, quand les conditions du travail deviennent insupportables, tout à coup, les solidarités se réactivent, en quelque sorte. Se réactivent entre les salariés eux-mêmes et pour crier à haut sur ces conditions de travail, pour cesser le travail, ne serait-ce que quelques heures, parce qu'il y a pas mal d'enjeux, ça ne déborde jamais une journée ou deux journées. Il y a aussi des résistances, vous l'avez relevé, des résistances religieuses. Religieuse au sens au sens mystique du terme, les amulettes, l'encens, tout ça, c'est par-delà même l'anecdote, pour moi ça me questionne.
C'est intéressant
que, parce que si tout bonnement quand on voit le profil de la main d'œuvre qui travaille dans ce salariat d'exécution, que ce soit dans les fermes agricoles ou dans le secteur de l'habillement, pas dans les centres d'appel là, on voit que c'est un profil, vraiment, c'est des gens qui ont un rapport transitoire à l'école. C'est des femmes.
Oui, c'est-à-dire que là, on a plutôt, dans ce cas-là, on a plutôt une population traditionnelle, alors que peut-être dans les centres d'appel.
Absolument, c'est, un peu c'est des diplômés, effectivement.
Ce sont des diplômés.
Et urbains, en général, effectivement, vous avez tout à fait raison.
C'est
une population traditionnelle, mais qui a un sens.
En cours d'ouverture, et puis reste donc là. Cette solidarité que vous évoquiez.
Tout à fait. Il y a une solidarité primaire, mais il y a aussi, par-delà même, alors moi ce qui m'a beaucoup, ce qui a attiré mon attention d'une certaine manière a été de voir comment ces personnes qui n'ont aucun capital scolaire, qui sont dénuées de capital culturel, qui n'ont pas un capital économique, mais qui arrivent quand même à avoir conscience de ces conditions de travail et à les combattre à leur façon et à leur niveau et à partir de leur disponibilité, de ce qu'ils ont. Et évidemment, moi, je vais vous donner un exemple. Par-delà même l'anecdote de l'encens et des amulettes, il y a toute une rationalité langagière. Il y a tout un arsenal, en quelque sorte, ou de tics langagiers que l'on dit pour verbaliser ce réel, pour verbaliser cette exploitation. Par exemple, on dit que ça urge le flux. Quand par exemple un patron ou le kbran qui passe pour le dire, alors il faut travailler, ça urge. Alors ils répondent pour s'en moquer dans une perspective de raillerie, hein, de moquerie. Ça, on leur dit ça urge le flux. Si vous, oui, ça urge pour que vous soyez, pour qu'on fasse y rentrer de l'argent.
Voilà, c'est ça.
Et nous, on est un peu les dindons de la farce, on est un peu les oubliés. Il y a toute une dimension langagière. Alors ça m'a fait à l'époque penser. À faire quelque chose ou à écrire quelque chose qui s'inscrit en faux contre la fameuse maxime de Wittgenstein, hein, la phénoménologie, qui dit « les limites de mon langage sont les limites de mon monde ». Les limites de mon langage sont... Là, chez les ouvrières marocaines, les limites de mon langage ne sont pas les limites de mon monde. Parce qu'ils arrivent quand même à inventer un langage qui dépasse leur capacité cognitive ou cognitive.
Oui, c'est ça,
Et du coup, on le voit, il y a des résistances langagières, il y a des résistances de grève. Il y a des grèves. Mais ils sont rares, les grèves, il faut bien le dire, parce que la plupart des entreprises, en tout cas moi, qu'elle m'a été donnée de visiter, n'ont pas de délégué syndical. Il n'y a que le délégué de personnel. Et quand on sait le rôle de délégué personnel vis-à-vis de la direction des entreprises, on est plus dans la réclamation que dans la revendication. Mais là, en l'occurrence, il y a des fois des grèves qui se déchaînent, qui s'enchaînent et qui se déchaînent, par période comme ça. La résistance par la religion, c'est-à-dire, évidemment... quand on a quelque chose, des ressources imprévues comme ça, et quand ils arrivent, il faut les interpréter sociologiquement.
Quand
on les interprète, on voit, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est une population traditionnelle, c'est une population rurale, c'est une population effectivement où les femmes ont toujours joué un rôle de gardienne de la tradition, de gardienne de la tradition. Donc cette tradition-là effectivement se matérialise dans des pratiques de l'encens aux 10 amulettes, mais il y a encore des résistances langagières, à mon avis, que des sociolinguistes pourraient étudier utilement. Et de là, effectivement, faire ressortir quelque chose, parce qu'il y a une vitalité langagière tout à fait prodigieuse. J'ai beaucoup d'exemples, là. Je me rappelle plus Saïr, Jelflous, nous chassons le mimlou, regardez la métaphore rurale encore, nous chassons le mimlou loulou, c'est le prédateur, c'est le patron.
C'est le patron.
Oui, voilà, et ainsi de suite. Il y a ça, mais effectivement, sur la transformation de toute cette rationalité langagière dans des actes concrets, là effectivement, ça tarde à se transformer, en tout cas, ça peine à se transformer.
Oui, donc la dérision est un peu une arme qui leur permet également de tenir de se révolter. On fait une petite pause musicale. قلتلك سيري مشي قلتلك هدا قلتلك سيري مشي ولا عندك تقربا قلتلك سيري مشي قلتلك هدا ما تقوليش مشي دابا عاد غنبدا وعاد غنبدا غنبدا. Donc on poursuit avec Brahim El Abari, sociologue marocain, sur l'influence de la mondialisation sur la société marocaine. Et donc, vous avez évoqué tout à l'heure, j'aimerais qu'on y revienne, pour nous expliquer un petit peu cette pratique de l'encens. Qu'est-ce que c'est que cette pratique de l'encens? Qu'est-ce que ça représente pour ces travailleuses? Parce que je pense que c'est plutôt une action féminine.
Oui, effectivement, c'est une pratique purement féminine. Moi, quand j'avais découvert ça, je l'ai découvert caché. Hein, c'est-à-dire, ça se fait en catimini. Hein.
Ah oui, d'accord.
Et après, je l'ai remarqué, il y a un surveillant qui m'a dit « Tiens, est-ce que tu vois ça ?» Je lui ai dit « C'est quoi ?» Il m'a dit « C'est l'encens ». si l'on encense ces machines pour que cette machine ne tombe jamais en panne. C'est-à-dire, c'est pour échapper à la précarité. C'est-à-dire que toutes les croyances populaires issues de la socialisation, je vais utiliser un jargon très sociologique, et vous me pardonnerez l'audace, issues de la socialisation primaire des travailleuses, brusquement, il fait aussi son entrée dans l'usine.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire.
Voilà. Et moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, tiens, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Et après, j'ai vu qu'aussi, effectivement, dans l'ensemble, c'est le brûl. Et après, il y a les amulettes.
Ouais.
C'est-à-dire les petits gris-gris africains, ouais, qui sont quelque part dans la machine. Alors, c'est une façon de se protéger. Alors, je n'ai prétends pas avoir une réponse, parce qu'on ne peut qu'interpréter ça d'une certaine manière.
Oui.
Et c'est ce que je viens de faire à l'instant même, en le rapportant à la socialisation primaire de ces femmes rurales traditionnelles, en quelque sorte, et qui font venir, et ça nous interrogera pour les spécialistes de la culture d'entreprise, que la culture d'entreprise, c'est pas quelque chose qui préexiste à l'ouvrier, c'est aussi l'ouvrier quelque part qui apporte quelque chose et qui compose donc bout à bout cette culture de l'entreprise. Et quand j'ai vu ça, ça m'a interpellé. Et comme bon sociologue, entre guillemets, je me suis dit, tiens, je ne vais pas quand même attacher l'importance à ces anecdotes, hein. Je ne vais pas quand même faire tout un plat, tout un fromage, comme on dit, de ces petites pratiques, de ces pratiques élémentaires. Je vais quand même regarder, est-ce que ça se répète, est-ce qu'il y a cette durabilité d'un fait social, comme disait Émile Durkheim. Alors effectivement, je l'ai observé dans pas mal d'entreprises. Je l'ai observé, il y a aussi des amulettes que l'on s'attache assez vitement, et ainsi de suite. Et après, ça m'a interpellé et je me suis dit, tiens, je vais quand même réfléchir à la chose et je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ces pratiques qui, de toute façon, ne doivent pas laisser un sociologue indifférent. Et à l'époque, j'avais produit un petit texte dans un ouvrage collectif dirigé par Daniel Linhart qui s'appelle « Pourquoi travaillons-nous ?» vers une approche sociologique de la subjectivité au travail. Et j'avais fait un chapitre qui s'appelle « Référent islamique et profane dans l'expression des subjectivités au travail des ouvrières marocaines ». Et là, j'ai analysé beaucoup plus la chose,
voilà, c'est
comme étant effectivement un fait anthropologique et qu'on devrait non seulement s'attacher au profil d'une certaine manière de ces travailleuses et de ces ouvrières venues d'un bled éloigné de la civilisation urbaine, et quand ils découvrent le monde du travail, et quand ils touchent leur premier salaire, effectivement, ce n'est quand ils le touchent, et quand ils touchent ce salaire sonnant et trébuchant, il va falloir tout faire pour le garder, moins dans la durée, parce que toutes les ouvrières ne sont pas déclarées dans ces fermes agricoles et dans le secteur de l'habillement. Il y a un tiers à peu près qui est déclaré. Il y a, je n'ai pas toutes les statistiques, mais moi je cherche.
Oui, ça ne doit pas être facile de d'avoir les statistiques.
Exactement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je les ai composées moi-même. Et du coup, j'ai vu qu'effectivement, il y a les déclarés, il y a les non déclarés, il y a les occasionnels, c'est-à-dire le travail occasionnel, c'est-à-dire quand le carnet de commandes
monte,
effectivement, là où on a besoin, et où par la filière familiale, on fait venir d'autres femmes pour prêter main forte à celles qui sont déjà sur place. Et du coup, quand on voit effectivement et quand on analyse un peu plus sérieusement la chose, on voit que ces pratiques concernent davantage les non déclarés.
Donc c'est aussi une façon protéger,
de rester à l'entreprise, de rester dans l'entreprise. Mais ce sont des croyances, évidemment, qu'il faut objectiver. C'est-à-dire, par-delà même le caractère anecdotique de la chose. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? À mon avis, sans avoir à décrypter quoi que ce soit en tant que sociologue, il va falloir donner la parole à ces personnes. Je pense qu'ils sont capables elles-mêmes
d'expliquer
ce à quoi ça
rapporte. Alors, qu'est-ce qu'ils disent?
C'est exactement ça, c'est une façon de se protéger, contre les aléas de l'entreprise, contre cette bête immonde, en quelque sorte, qui est l'entreprise, qui est à la fois crainte et désirée. C'est ça, et c'est ça l'ambivalence de la chose. Et donc, c'est pour se protéger, c'est pour garder sa place et la garder bien au chaud dans une compétition, parce qu'il y a une mise en concurrence quand même des salariés marocains à travers notamment ce clivage entre les déclarés et les non déclarés. Et là, on ne peut que abonder dans le sens marxiste, la fameuse armée de réserve. Alors, soit vous travaillez avec des conditions que je vous impose en tant que patron, si vous ne voulez pas, bah, il y a d'autres, il y a une autre main d'œuvre alternative et qui pourrait accepter le marché à un coût moindre.
Et oui, puisque bon, compte tenu de la démographie du Maroc,
tout à fait, en plus, oui. Effectivement,
il n'y a pas de, problème pour trouver de la main d'œuvre.
Effectivement, il n'y a pas de problème, mais il y a une véritable domestication. Des salariés, et ce salarié-là, effectivement, développe toute une série de résistances, à la fois dans la culture qui est la sienne, enracinée dans la culture qui est la sienne, mais également langagière, et par le côté de l'encens et de l'amulette.
Oui, c'est quand même c'est très étonnant, cette irruption de la tradition dans la modernité d'une entreprise. Et donc,
de toute façon, la question, c'est-à-dire le rapport entre la religion et les entreprises, on pourrait aussi le voir, y compris dans les pays développés. Hein.
Bien sûr.
Par des formes différentes.
Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, on a là des salariés qui essaient de mettre tous les éléments de leur côté, y compris les plus traditionnels, les plus obscurs, on pourrait presque dire. D'ailleurs.
Oui, absolument. À partir de nos lunettes savantes, effectivement, on pourrait considérer ça. Mais ça a du sens, encore une fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de traquer le sens. C'est le sens visé par l'acteur, comme disait Max Weber. C'est-à-dire, je cherche absolument à voir quel est le sens donné à ces pratiques par celles qui les exécutent. Et non, moi, je ne prétends pas avoir mon mot à dire, comme ça, à décréter que c'est plutôt ça. Et c'est ça l'ennemi principal de la sociologie, c'est l'idéologie. Quand on cherche absolument à idéologie la sociologie, on tombe effectivement dans des choses, dans des raccourcis comme ça, à dire, de vouloir interpréter ça. Effectivement, moi, je prends mon miel là où il se trouve. S'il se trouve chez Marx, je le prends. Vous aurez remarqué que j'ai cité Durkheim, j'ai cité Max Weber, j'ai cité Karl Marx, soit les pères fondateurs de la sociologie. Et d'une certaine manière, chacun pourrait être utilement mobilisé ad hoc, si j'ose dire, de façon adocratique.
Donc, les facteurs culturels et religieux pèsent donc bien sur ces salariés. Et ça influence donc assez largement le monde du travail. Et en particulier, vous l'évoquiez, ce problème de la possibilité d'avoir et de se maintenir dans le travail. Alors il y a quand même une question qui se pose, c'est que comment la direction de l'entreprise prend-elle cette irruption de ces pratiques curieuses?
C'est des pains bénis. Hein. C'est un truc qui leur tombe tout droit dans le bec. Hein. Là, ils ne peuvent pas s'attendre à mieux. Ben, ils amadouent tout simplement. Ils promeuvent même ce genre de pratiques.
Ah oui.
Tellement que c'est vraiment pacifique. Vous l'aurez remarqué, c'est pas la grève.
Hein. Oui.
C'est généralement, ils sont au courant. Moi, j'avais fait à l'époque beaucoup d'entretiens, à la fois avec le directeur technique, mais également avec le PDG. Et tous me disent, effectivement, on laisse les gens s'exprimer à leur façon. Nous, on ne va jamais leur interdire quoi que ce soit. Mais évidemment, c'est quelque chose qui va dans le sens de ce que l'entreprise cherche, à savoir la domestication d'une main-d'œuvre. Par ces pratiques-là, ils n'étaient même pas... Alors, ce qui est marrant, c'est que l'islam est utilisé différemment dans les entreprises.
Alors ?
Il est utilisé différemment en ce sens que la main-d'œuvre, essentiellement féminine, l'utilise dans ce sens-là, c'est-à-dire l'islam en tant que culture locale, en tant que culture populaire, comme ça, qui fait irruption de cette façon-là, qu'on compose pour résister... pour crier à resserrer les conditions de travail, mais toujours d'une façon pacifique, parce que ça ne fera pas de mal à une mouche, finalement, le fait d'accrocher une amulette ou d'encenser sa machine.
Eh oui.
Mais, à contrario, le patronat utilise aussi l'islam, mais cette fois, l'islam en tant que religion de l'ordre. C'est-à-dire, on utilise l'islam à la fois comme une religion qui exhorte au travail, qui exhorte à la propreté, contre le vol dans l'entreprise.
Eh oui.
La propreté fait partie de la foi. Il ne se gêne même pas de mettre du foi des slogans comme ça, de cet ordre-là.
Dans l'entreprise, dans l'atelier.
De sorte à ce que effectivement, il puisse le faire. Et voilà, quand vous dites la propreté fait partie de la foi, c'est-à-dire, moi j'avais utilisé à l'époque une vieille expression encore marxiste, c'est le fait d'aliéner le travailleur par le croyant, c'est-à-dire ouais. que le travailleur marocain, il est à la fois croyant et travailleur, on aliène le travailleur par le croyant, ouais. et on amadou le croyant par le travailleur. C'est-à-dire, c'est toute une aliéner oui. le travailleur par le croyant consiste effectivement à vous à aller dans le sens de vos traditions, mais uniquement quand ces traditions pourraient se conjuguer à l'économie, se conjuguer à la performance au travail, au don de soi, ou à l'engagement au travail.
Oui, c'est l'opium au service de la production.
Oui, c'est en quelque sorte cela, effectivement, quand on le voit. Et en même temps, des fois même, on met la religion pour... Alors, je ne suis pas le premier à avoir détecté cela. Il y avait déjà un article d'un sociologue français qui s'appelle Philippe Deribarne, qui avait fait à l'époque un article sur Casablanca, qui s'appelle... Et les ressources imprévues d'une culture, une entreprise excellente à Casablanca, où il dit que Thompson, quand il est arrivé au Maroc, il était en panne d'imagination, c'est-à-dire que son chiffre d'affaires n'arrive pas à s'accroître. Mm-hmm. Et quand ils ont mis en place le TQM, le Total Quality Management, ils ont essayé de faire coïncider ce Total Quality Management avec les préceptes de l'islam. Et c'est pour cette raison que les travailleurs de Thompson ont adhéré en bloc et en détail corps et âme dans la marche de l'entreprise. Et du coup, effectivement, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 10.
Ah oui, c'est astucieux voilà, de la part des investisseurs.
Mais c'est très astucieux. Mais lui, il avait fait à l'époque une analyse somme toute culturaliste. Mais là, moi, je ne suis pas dans le culturalisme. Ouais. Je suis plutôt pour dire, effectivement, que la religion, et le référent islamique en tout cas, a été ambivalent. Tantôt, il est utilisé par la direction, ouais. pour exhorter au travail, pour chanter les mérites du travail. Tantôt, il est utilisé par une main-d'œuvre, effectivement, parce que c'est les seules ressources dont il dispose de par son profil, par son niveau, par son origine, et ainsi de suite.
Ouais, ouais.
Et du coup, voilà. Et du coup, interpréter ça, oui, le patronat... Le patronat ne demande que cela, si j'ose dire.
Oui, c'est du pain béni.
Oui, bien sûr, c'est du pain
béni. Oui, puis c'est intéressant ce que vous dites, là, la relation entre le travailleur et le croyant... dans bidirectionnel.
Oui, bien sûr, aliéner le travailleur par le croyant et amadouer le croyant par le travailleur.
Tout à fait. Ouais, ouais.
C'est-à-dire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps, il nous faudra beaucoup de temps pour. Effectivement, par exemple, l'une des politiques de l'entreprise a été de, par exemple, à l'approche de la fête du mouton, l'Aïd al-Kbir, 50% des travailleurs, 50% des prix du mouton est offert aux travailleurs mariés.
Ah oui.
Bon. On respecte les horaires de Ramadan, bien évidemment. On respecte les horaires de Ramadan, c'est-à-dire que les horaires de l'entreprise s'alignent purement et simplement sur les horaires de l'administration marocaine, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'exemples, de toute façon. À mon avis, le référent islamique est très présent dans l'entreprise. Il structure même les rapports au travail. Mais on a peut-être beaucoup plus à faire dans cette perspective-là. Oui. C'est-à-dire les chercheurs n'ont qu'à... à mouliner la plume ou à utiliser leur clavier et aussi à mouiller la chemise en allant sur le terrain pour collecter les infos.
Ah oui, il y a de quoi faire.
Les données, exactement.
Il y a de quoi faire parce que c'est vraiment un aspect des transformations sociales qui est vraiment passionnant.
Absolument.
Cette place de la religion.
C'est ambivalence, surtout.
Oui, de la tradition par rapport au travail, par rapport à ta vie, oui. de la part finalement d'investisseurs qui sont étrangers à ça et qui ont trouvé là une bonne aubaine, et finalement, pour faire fonctionner.
Exactement.
Alors, encore un petit peu de musique. Voilà. Alors, dans ces relations croisées entre la direction et les salariés, il y a cette opposition que vous avez, sur lequel vous avez travaillé, cette opposition entre les salariés permanents et les salariés occasionnels, et finalement l'utilisation que peuvent en faire les patrons d'entreprises qui sont installés.
Oui, effectivement, c'est un clivage, à mon avis, structurant dans pas mal d'entreprises, c'est-à-dire pour les permanents, c'est-à-dire ceux qui sont là tout le temps, qui travaillent normalement sur la base d'un contrat de travail annuel, on va dire même en CDI, parce que effectivement le droit de travail au Maroc était éparpillé avant 2004, était éparpillé comme ça, en dahir, c'est justement des dahir, c'est des décrets comme ça, éparpillé. Et à partir de 2004, il y a comme une rupture parce qu'il y a une véritable législation, un véritable code de travail. Mais effectivement, dans toutes les enquêtes sociologiques que j'ai menées, il m'apparaît clairement que ce clivage existe, quel que soit le secteur d'ailleurs sur lequel on travaille, entre les permanents, ceux qui sont vraiment des titulaires, qui font partie de la maison, et les occasionnels, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent qu'en cas de besoin, c'est-à-dire une flexibilité en fait, ce qu'on appelle en Occident la flexibilité. Ils n'ont pas la flexi-sécurité. Effectivement, on le fait intervenir uniquement si besoin est. Donc, c'est une opposition qu'il faut mettre sur le compte de ce qu'on appelle aujourd'hui la mise en concurrence des salariés, qui n'existe pas seulement au Maroc, mais dans tout, sur toute la planète.
Oui,
c'est quelque chose d'universel, exactement. C'est universel. Mais d'autres formes sociales de rapport au travail émergent à partir de ce clivage. Moi, j'avais à l'époque mis en évidence, en tout cas conceptualisé cette chose à partir du vocable, le nomadisme salarial. C'est-à-dire à partir du moment où le nouveau donne l'occasion que de travailler occasionnellement, que vous acceptez bon gré, mal gré, parce qu'il y a une armée de réserve qui n'attend qu'à à prendre votre place, si jamais cette place se libère, soit de votre propre fait, soit des fêtes de l'entreprise qui peut vous remercier parce que vous n'êtes que jetable et corvillable à merci. À partir de là, il y a d'autres résistances qui s'enchaînent chez les occasionnels. C'est ce qu'on appelle, j'appelle mal le nomadisme salarial, c'est-à-dire il est appelé à démultiplier les horaires de travail en passant d'une entreprise à une autre. Peut-être dans une même journée, c'est-à-dire je travaille 3 heures par là, 4 heures par là, 5 heures par là, et je prends le camion qui me transporte chez moi, et le lendemain, rebelote.
D'accord.
Donc je fais tout pour avoir le maximum de rémunération, et d'ailleurs quelle rémunération ? Là, effectivement, parce que c'est à peu près 15 dirhams l'heure, 15 dirhams l'heure, c'est vraiment les entreprises les plus généreuses.
Oui.
Voilà. Et le SMIC, c'est à peu près 2500 dirhams, c'est 250 euros, on va dire.
D'accord, oui.
Et donc, effectivement, cette mise en concurrence et ce clivage structurant entre les occasionnels et les permanents rejoint la thèse selon laquelle il y a dans toute structure humaine, il y a des établis, des outsiders. Et que les outsiders, la seule chose à laquelle ils aspirent, c'est de devenir les établis. Et eux-mêmes, une fois devenus établis, déploient toute une gamme d'efforts, toute une série d'efforts pour maintenir les outsiders à leur place. Effectivement, et vous avez évoqué, il y a beaucoup de contes, on arrive à avoir sa place au soleil, on va dire. C'est-à-dire par un contrat de travail, vous ne pouvez pas imaginer les festivités auxquelles ça donne lieu.
Ah, voilà,
c'est-à-dire qu'il y a un contentement général, il y a des festivités dans le village, dans le Douar, pour effectivement fêter ce nouveau contrat de travail, l'assimilant à un visa long séjour, l'assimilant à une protection à vie, à une stabilisation, à une sédentarisation dans le monde de travail.
Ah, d'accord,
et je vous passe les détails, le temps ne manque.
Ah, oui. Tout le monde est invité à la fête.
Ouh là là, il est invité à la fête, et puis on fait des chants.
Ah,
voilà,
ouais.
c'est
Ah oui, c'est...
Décrocher, hein. Mais d'ailleurs, c'est pas spécifiquement marocain quand quelqu'un décroche un CDI. La joie est telle que effectivement,
c'est vrai que maintenant, ça devient
ouais,
ça,
avec
chose
la précarité qui nous guette.
Parce que finalement, ces travailleurs occasionnels au Maroc, tels que vous les décrivez, c'est le rêve de souplesse de tous les patrons.
Oui,
qu'il aille faire 3 heures d'un côté, 2 heures de l'autre, etc.
Oui, bien sûr.
C'est le rêve de la
bien
souplesse. Rêvé par tous les patrons.
Oui, ici le système, moi c'est le système libéral, c'est le capitalisme tel qu'il est conçu, hein, qui est par essence inégalitaire, puis qui est par essence méprisant, à mon avis, d'une certaine classe sociale. Et donc, effectivement, ces gens-là n'ont d'intérêt que dans les bras et dans la poche, et moyennement dans la poche. C'est-à-dire, bon.
Oui, donc on a là donc une coupure à l'intérieur de l'entreprise entre les statuts des différents salariés. C'est ça qui se produit. Alors pour dans le temps qui nous reste, le temps se passe très très vite en votre compagnie sur ce sujet donc Brahim Labary concernant les conséquences sociales de la mondialisation au Maroc. Sur Radio Zinzine et dans l'émission, bien sûr, Marie Nostrum. Et donc, on est là, tout à fait dans une situation particulièrement difficile de ces salariés. Alors, dans le temps qui nous reste, j'aimerais qu'on essaye d'évoquer, il faut essayer d'être avoir un petit peu d'optimisme, les perspectives d'évolution de la question sociale, qu'on peut l'appeler comme ça, la question sociale, au Maroc. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé très, très rapidement d'une législation du travail qui a été votée, qui a été mise en place en 2004. Ouais. Est-ce qu'elle fonctionne ? Est-ce qu'elle donne effectivement aux salariés les moyens de se battre pour son statut, pour éviter la plus grande précarité ?
Alors, effectivement, vous voulez savoir l'applicabilité de ce code de travail, hélas, de ce qu'on a partout, de par le monde. Si la théorie et la pratique se confondent, la science n'a plus lieu d'être, disait Karl Marx. De toute façon, c'est-à-dire, on prend beaucoup de liberté à chaque fois avec le code du travail. Et les voies de recours existent.
Ouais.
Mais où est le temps ? Où trouver le temps pour aller chercher un avocat ? Pour un précaire ? Pour quelqu'un qui est un transitoire à l'école, pour trouver un avocat, pour aller au tribunal, pour faire des allers-retours, appeler des SACOS. Moi, je pense que déjà ça a de quoi le faire reculer.
Ouais.
Et une fois, effectivement, une injustice constatée, ou quand il s'estime victime d'une injustice, au milieu de travail. Je pense que là, pour moi, c'est déjà un frein, c'est déjà un obstacle, c'est déjà une entrave à ce que cette applicabilité soit effective.
Ouais.
Donc, à l'évidence, ce n'est jamais appliqué. On connaît l'expression. La loi est généralement faite pour être violée, hein, bon,
oui.
Dit-on, hein, de par le monde. Hein. Et en même temps, alors moi, je cite toujours Gramsci, « Optimisme du corps, pessimisme de la raison. » Évidemment, la société marocaine, en tout cas la société du travail, connaît une vitalité telle que toute déception, à mon avis, ne pourra que faire des dégâts.
Mais oui.
C'est le diagnostic suprême. Une vitalité, pas seulement une vitalité ontologique, ça va sans dire, mais s'il y a une vitalité à travers les réseaux sociaux, la place aujourd'hui des réseaux sociaux, la place d'Internet, de Facebook,
qui est grande
de WhatsApp,
au Maroc, vous
mais
le disiez
évidemment,
tout à l'heure.
À l'évidence, mais il n'y a jamais de censure au Maroc. C'est l'un des pays qui a épousé ça le plus librement possible.
Mm-hmm.
Et du coup, on communique beaucoup. La société marocaine se transforme prodigieusement sous l'effet effectivement de ces réseaux sociaux, de ces nouvelles technologies d'information et de communication.
Mm-hmm.
Il y a une jeunesse débordante d'imagination. Mais effectivement, le cadre général, le système en lui-même, n'offre pas suffisamment de possibilités à l'expression pour cette jeunesse avide de découverte, avide de lecture, avide aussi d'aller de l'avant, de travailler à son compte. Il y a beaucoup aujourd'hui de ce qu'on appelle l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire travailler à son compte. On voit le travail informel, moi, ce que je range sous le vocable de l'économie populaire, c'est-à-dire les travailleurs, les vendeurs à la sauvette, qui vendent ça, c'est la débrouillardise au quotidien. Il y a cette vitalité. Et la déception ne peut être qu'une catastrophe. Et c'est ça la nouvelle, moi, ce que j'appelle la nouvelle question sociale. La nouvelle question sociale, il est lié précisément à ce gap entre les aspirations de cette jeunesse, les aspirations d'un Maroc de plus en plus ouvert à la mondialisation, et malheureusement, un système qui ralentit, un système qui ne suit pas complètement ses aspirations.
Et dites-moi, ce droit du travail, cette législation qui a été votée en 2004, c'est ça,
Oui.
Est-ce qu'elle s'applique intégralement aux entreprises étrangères qui viennent s'installer au Maroc, ou est-ce que on s'arrange un petit peu avec?
Bien malin qui pourrait... Effectivement, franchement, moi, de toute façon, les entreprises étrangères, il va falloir distinguer les grands groupes. Les grands groupes, effectivement, comme Renault, comme Renault qui s'est installé à Tanger,
oui.
Et comme pas mal d'autres groupes français et espagnols qui s'installent au Maroc. Mais il y a aussi des petits groupes, il y a aussi des entreprises familiales, hexagonales ou d'ailleurs, ou de Navarre,
qui s'installent. Dans quel cadre c'est plus appliqué? Dans les grandes entreprises ou plutôt dans les petites?
Ah non, je pense qu'il est beaucoup plus appliqué, ça dépendra si on cherche vraiment. Mais mon hypothèse, c'est qu'il est beaucoup appliqué dans les grands groupes que dans les petits groupes.
Oui, parce que...
Ça va sans dire. Parce que c'est très familial, c'est très artisanal, c'est très... Ouais. Je travaille chez mon père, même si mon père m'exploite, ça fait rien, ou chez mon cousin, j'accepte l'exploitation. Quand ça vient d'un proche, mais je la refuse catégoriquement que ça vient d'un étranger. Hein.
Ouais.
C'est de la segmentarité. Hein. Je suis contre mon frère, mon frère et moi contre le voisin, mon frère et moi contre le resto du monde. Bon, c'était la fameuse segmentarité d'Ibn Khaldoun. Effectivement, la législation du travail, elle est faite pour être appliquée. Il y a des tribunaux pour ça. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent sur le type de procès que l'on intente au patronat. Il y en a, hein, c'est pas qu'il y en a
d'accord,
pas.
D'accord, oui, c'est pas complètement...
Mais franchement, ça serait vous dire quelque chose, moi, que j'ai pas fait, hein, que je dois faire effectivement encore des recherches dans ce cadre-là, et venir à Zenzel pour...
voilà, c'est ça. Alors, dans ces perspectives d'évolution de la question sociale... en deux mots, parce que je vois qu'on est presque au bout. Est-ce que les partis politiques, le roi joue un rôle important ou pas?
Le roi est le chef de la nation.
D'accord.
Il est le chef de l'État. Et quand il dit quelque chose, sa parole, c'est une loi.
D'accord.
Le roi il a fait beaucoup de discours très pertinents. Effectivement, l'application, c'est une autre chose. Donc, les partis politiques socialisent, mais ils sont si vieux, incapables de suivre les recommandations royales et l'évolution même de la société, qu'elles restent un peu dans un statu quo navrant.
D'accord.
Mais il y a aujourd'hui une jeunesse qui tente quand même de prendre les rênes et qui aussi propose d'autres alternatives aux politiques. Il y a une société civile extrêmement dynamique, notamment transnationale, et qui pourrait effectivement... laisser présager que le Maroc de demain serait meilleur.
Donc on peut dire que l'Europe peut avoir un rôle majeur dans ce développement dans l'évolution de la question sociale au Maroc.
Il l'a, bien sûr. C'est lui qui a fait l'INDH, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, qui a toujours trait au Maroc, qui se propose de lutter contre la précarité et contre... C'était le roi. C'était le roi qui avait conçu ce dispositif et qui l'a mis en œuvre et qui a veillé à ce qu'il soit mis en œuvre.
D'accord. Ben écoutez, voilà, on arrive à la fin de notre entretien. Brahim Labari, merci de nous avoir accordé cet entretien sur l'antenne de Radio Zinzine. Et puis, une prochaine fois.
Ben écoutez, merci, c'est moi qui vous remercie. Merci pour ce dialogue intéressant. Merci aux techniciens et à très bientôt.
Au revoir. I'm
moon's body. خليني نفوق نفتح قلوب الناس نعطيهم شباب الروح نازول خليني نجاوب 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 الساحة ندور